Aujourd'hui, nous allons parler de recherche en sciences sociales avec Christophe Dansac et Thierry Simon, venus nous parler de l'Académie territoriale des savoirs en construction. Il s'agit d'une association née de la volonté de quelques enseignants-chercheurs de l'IUT de Figeac visant à aller à la rencontre du public, non seulement pour réaliser la mission de diffusion de connaissances de l'université, mais aussi pour mieux être en prise avec le territoire. Elle est actuellement présidée par Thierry, et donc cette association du nom de LATSAC a donc pour but de faciliter l'appropriation par tous de savoirs académiques et de soutenir leur production. Pour cela, donc, l'association propose des conférences, des temps d'échange et de discussion. Alors, pour en savoir plus, je les ai invités dans les studios. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, cette académie de recherche, elle est née comment ?
Alors, ce n'est pas tout à fait une académie de recherche. Il s'agit en fait, comme le nom l'indique, Académie territoriale des savoirs en construction, d'une association des enseignants-chercheurs de l'IUT de Figeac qui souhaite donc proposer des savoirs universitaires à la population du territoire, quel que soit leur objectif. Initialement, nous avons choisi en fait trois grandes thématiques pour construire cette association. Tout simplement parce qu'on se disait que pour aider la population finalement à faire des choix de société, il était intéressant de leur passer un certain nombre de savoirs universitaires dans les domaines, par exemple, de l'engagement de la jeunesse, l'intelligence artificielle ou l'économie. Sur cette base, on a rassemblé un certain nombre de collègues de l'IUT qui œuvrent dans leur recherche dans ces domaines-là. Et puis on a, dans un premier temps, pensé qu'il serait intéressant de proposer des cours gratuits, en direction de qui veut bien venir, que ce soit des gens qui ont une culture scientifique et technique ou des gens qui ont envie de connaître un petit peu plus sur ces domaines-là. On n'a simplement pas trouvé de lieu. On souhaitait que ce ne soit pas à l'IUT pour un peu détacher les choses et inviter vraiment notamment la population figeacoise à venir dans ces cours. Mmh. On n'a pas trouvé encore de lieu. On va redemander.
Ça va se faire.
On espère. Donc, dans un deuxième temps, on a prévu des conférences pour pouvoir montrer finalement qu'il y avait une certaine dynamique recherche sur le territoire.
D'accord. Concrètement, la première conférence va se dérouler le 15 juin prochain avec comme invité Josiane Boredon-Piacentini, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est une dame qui est actuellement en retraite, mais qui a travaillé dans des grands laboratoires. Et qui a donc un certain savoir autour de la biologie. Et là, elle nous propose quelque chose autour du biomimétisme, observer la nature pour s'en inspirer, innover. Voilà. J'ai assisté à une première présentation il y a quelque temps. Elle est très intéressante. Elle est tout à fait accessible pour le grand public. Et elle l'a revue avec les nouvelles connaissances des dernières années, là, et ça sera bien, je pense.
Mmh. Ça s'adresse à qui ? Parce que quand on parle de biomimétisme, moi, ça m'interpelle peut-être au niveau sociétal, où je n'aurais pas forcément assimilé ce mot avec l'étude des animaux, par exemple. Mais...
Alors... Moi, je suis enseignant-chercheur dans le domaine de sciences et technologies. Alors, ce n'est pas tout à fait le sens de la présentation de Josiane, mais le biomimétisme, à la limite, on pourrait le voir comme l'intelligence artificielle s'inspire du fonctionnement de l'intelligence humaine, mais il y a plein d'autres choses. On construit des robots qui sont appelés robots animates. Le dernier, très en vogue en ce moment, c'est un robot chien qui est en capacité de se déplacer dans des milieux dangereux. On dit qu'il lui faut un peu de 5G pour pouvoir fonctionner en temps réel, mais bon. Donc voilà, la nature inspire les chercheurs. Moi, je me souviens des algorithmes de colonies de fourmis qu'on développait pour faire de l'optimisation de processus. Voilà. La nature inspire beaucoup les chercheurs, oui.
Est-ce qu'il faut en avoir peur ?
Eh bien, justement, je crois qu'il faut, venir dans nos conférences. Quand nos cours seront présents, il faut venir, parce que ça permet de se construire une idée claire et ensuite de faire des choix, voilà, d'une société qu'on veut ou qu'on ne veut pas.
Je prendrai un exemple de biomimétisme qui est assez ancien, en fait. C'est que très, très tôt, les hommes se sont inspirés de la nature et notamment des oiseaux pour réaliser un de leurs rêves qui était justement de voler. Alors est-ce que rétrospectivement on doit avoir peur de ce biomimétisme en se disant que finalement ça a entraîné ensuite le développement de l'aviation et tout ce que ça entraîne derrière, les drones, y compris les drones de surveillance, etc. Ça fait partie effectivement des questions de société, mais qui s'ancrent, enfin qui existent depuis très longtemps.
Ouais, mais quand on parle de robotisation ou d'intelligence artificielle augmentée, etc., ça fait un peu à la fois science-fiction, mais on peut en avoir peur aussi, non ? De la manipulation de l'humain, côté-là, quoi.
Alors, bon, on n'est pas sur le transhumanisme, qui est de mon point de vue, une dérive.
Hein. Oui.
Mais... dans les années 50, les deux acteurs états-uniens qui ont inventé le terme intelligence artificielle l'ont fait sciemment pour faire du buzz. Hein, et ça continue et ça marche très bien. Mais l'intelligence artificielle a, depuis les années 50, des développements très cycliques. On a montré les limites par période de 20 ans. Là, il y a eu des décroissances, puis des remontées, et ainsi de suite. L'automatisation à très haut niveau, l'utilisation de techniques d'apprentissage profond sur réseau de neurones artificiels, ça sert effectivement beaucoup dans la production. Mais faire de l'optimisation en production, ça peut avoir beaucoup, beaucoup d'intérêt. On peut économiser de l'énergie, on peut économiser de la matière, on peut économiser du temps des personnes... Quand les personnes ont un petit peu plus de temps, peut-être qu'ils peuvent vivre un peu mieux que de rester uniquement au travail.
Derrière le biomimétisme, alors bon, ça je pense que Josiane Bordon le développera de manière beaucoup plus habile que moi, mais derrière le biomimétisme, il y a aussi des inspirations très très concrètes au niveau des matériaux, des avancées, par exemple la structure en nid d'abeille qui est utilisée dans certaines constructions qui est réputée pour sa solidité, elle est directement inspirée du travail des abeilles. En architecture, il y a énormément de structures qui sont conçues justement sur l'exemple du vivant, parce qu'il a été montré que dans certains organismes avaient des capacités internes d'autoventilation, etc., qui pouvaient être réinvesties au niveau de l'architecture. Et donc, je pense que ce que va pointer la conférence de Josiane Bourredon, c'est justement toute une diversité de manières dont la nature a pu inspirer le progrès humain, parfois pour le meilleur et effectivement parfois sans doute aussi pour le pire, mais en tout cas pour du moins bon.
Ouais, tout dépend en tout cas comment on l'utilise, quoi. Toujours pareil.
Complètement.
Je crois que c'est la dure réalité des sciences. Hein. Quand on fait un développement scientifique, il y a une utilisation qui peut être parfois terrible. Hein. Comprendre comment fonctionne l'atome est une très bonne chose. En faire une bombe atomique, voilà.
Oui, tout à fait. Et quand on est chercheur, on a toujours des savoirs en construction. Pour reprendre un petit peu les termes de de l'association, c'est-à-dire que on est toujours en évolution, on n'est jamais certain de certaines, on remet toujours en question ce qu'on a appris ou pas.
Ben oui, c'est le propre de notre travail, c'est le fond, c'est-à-dire qu'il faut à la fois donc pouvoir avoir accès à la production scientifique des collègues, la partager, la comprendre, la remettre en question. Et ça se construit comme ça, continuellement. Ce qui ne veut pas dire que quelque chose qui est remis en cause n'a pas servi d'étape, n'a pas servi au progrès humain. Mais voilà, oui, nous, on construit tous les jours le savoir. On n'est pas en capacité peut-être de le diffuser au grand public tous les jours. On le diffuse dans notre communauté, on nous le demande d'ailleurs. Il y a des productions scientifiques dans des revues, dans des congrès. On a l'avantage, quand on est enseignant-chercheur, d'avoir parfois un retour très direct auprès de nos étudiants, y compris au niveau IUT, de ce que l'on fait, de notre façon d'approcher les savoirs. Bon, après, oui, effectivement, il faut poser les choses à un moment donné, qui seront peut-être remis en cause les années d'après, oui.
Christophe ?
On pourrait dire effectivement que le questionnement permanent est une des bases fondamentales effectivement de la démarche de recherche, parce que je trouve qu'il est particulièrement dangereux de commencer à faire croire dans notre entourage qu'il existe des réponses fermes, définitives, universelles pour certains problèmes et certaines questions. Et je crois que c'est là tout l'intérêt de l'association, c'est de remettre en avant cette question, cette posture qui consiste à continuer à se poser des questions plutôt que d'essayer de se réfugier sur des réponses déjà faites pour lesquelles on afficherait un certain niveau de certitude, de confiance, etc. Je pense que quand on regarde par exemple ce qui s'est passé dans l'évolution des sciences physiques, les personnes qui ont travaillé à la suite de Newton étaient absolument persuadées que tout avait été compris des lois de la gravité. Et puis, il a fallu qu'apparaissent des personnes qui ont travaillé dessus, qui se sont dit « mais peut-être que ça ne marche pas si bien que ça » pour qu'on arrive ensuite à découvrir les lois de la relativité, etc. etc. Alors moi, je ne suis pas du côté de ces sciences-là, mais en tout cas, dans notre formation de chercheurs, c'est bien quelque chose que l'on apprend justement à se dire « voilà quel est l'état pour l'instant des savoirs sur le domaine, mais méfiez-vous, cet état n'est pas un état définitif et il reste toujours des zones d'ombre, des zones obscures, des zones où la recherche peut faire avancer encore un peu mieux la compréhension du monde qui nous entoure. Mmh. Voilà. Et c'est vrai que c'est une grosse différence entre les personnes qui sont dans cette posture, qui ne sont pas forcément toujours d'ailleurs des chercheurs ou des enseignants-chercheurs, il y a des gens qui sont tout à fait capables d'avoir cette démarche de questionnement permanent, qui essayent de se documenter sur des sujets, de toujours mieux approfondir leur réflexion. Et je trouve que c'est une posture qui est très intéressante pour un citoyen, parce que dès lors qu'on commence à adhérer à des idéologies, à ce que l'on nous présente parfois comme étant des faits établis, etc., eh bien, on est mal éclairé pour les choix. On pourrait prendre, par exemple, le poids qu'ont les économistes du mouvement dominant, qui sont des économistes néolibéraux. Hein, cette voix des économistes libéraux est tellement entendue, tellement répandue, y compris par les médias. Ce sont eux qui alimentent le plus les chroniques médiatiques, etc. Ce qui fait qu'on a toujours l'impression, nous, en tant que citoyens, qu'il n'existe en fait qu'une seule économie, celle qui est basée sur les principes des économistes qui ont promu justement des systèmes néolibéraux. Or, dans la science économique, il existe des mouvements alternatifs, il existe des personnes qui remettent en question ces théories économiques. Et pour l'instant, j'en prendrai pour un exemple Thomas Piketty, il y a des individus qui sont minoritaires au niveau de leur approche scientifique d'un domaine et qui pourtant pourraient paraître beaucoup plus éclairants pour les citoyens que nous sommes en termes de décision publique. Et donc tout l'intérêt de remettre cette posture de questionnement au centre de notre réflexion quotidienne, c'est justement de se dire « bon ben, oui, on a certaines connaissances sur le monde, on a certaines croyances sur le monde, mais peut-être que ce ne sont que des croyances et qu'après tout, quand on creuse un peu plus, eh bien, on peut aller au-delà et mieux comprendre de manière plus sensible le monde qui nous entoure.
Vous deux, vous êtes chercheurs, mais pas du tout dans le même domaine à la base. Et vous arrivez quand même à vous regrouper, à travailler ensemble sur des sujets qui vous rapprochent. Comment ça se passe un petit peu la collaboration entre des mondes, enfin des domaines qui au départ ne sont pas les mêmes?
Je crois simplement que c'est la posture de l'interrogation permanente qui nous relie. Et effectivement, nos domaines d'application ne sont pas, comment dire, ont des intersections, mais qui ont des intersections plutôt liées au traitement des données.
D'accord.
Donc les données, il faut pouvoir les avoir. Et effectivement, de plus en plus maintenant, il y a une massification des données, notamment grâce à Internet ou à cause d'Internet. Et ces données, effectivement, on a des méthodologies qui peuvent se ressembler. On a des traitements algorithmiques qui peuvent être utilisés en commun.
Là où on se rejoint, c'est aussi sur, c'est pas le plus facile, c'est sur les temps où justement on arrive à rendre les connaissances que là, où, enfin l'état de notre recherche, l'état de nos travaux, où on arrive à les rendre accessibles au grand public. Et là, on s'aperçoit que effectivement, dans le croisement des regards, on peut parfois trouver des métaphores, des analogies, considérer que, par exemple, des systèmes mécaniques interagissent entre eux un peu à la manière dont les systèmes humains interagissent entre eux, et réciproquement, hein, c'est trouver des règles mécaniques, en quelque sorte, au fonctionnement de la société. Et c'est effectivement plutôt dans cet espace-là qu'on arrive, effectivement, à communiquer, en plus de communiquer effectivement sur nos méthodes de recherche et notre approche du travail de chercheur.
Il y a d'autres chercheurs justement qui font partie de cette association, j'imagine. Ils évoluent dans quel domaine ?
Mécanique, matériaux, sociologie.
Sociologie, anthropologie, sciences de l'éducation, psychologie. En fait, on a un groupe en fait d'enseignants-chercheurs, hein, qui est le groupe de recherche interdisciplinaire et pluridisciplinaire de FIJAC, qui est donc une entité au sein de laquelle se sont regroupés les enseignants-chercheurs qui souhaitent travailler ensemble, même s'ils sont dans des domaines un peu éloignés les uns des autres. Et effectivement, parfois, c'est peut-être un peu difficile parfois pour un psychologue d'interagir avec quelqu'un qui s'intéresse aux matériaux. Mais tout ça crée aussi une diversité qui permet justement dont on espère qu'elle va nous permettre d'alimenter de manière variée le public en connaissance de différents domaines. Voilà. Et aussi, on ne s'appuie pas que sur les travaux que l'on mène, nous. C'est-à-dire que notre travail de chercheur nous amène à rencontrer d'autres personnes extérieures et avoir des contacts dans différents domaines. Et ça, justement, c'est une des idées de l'Académie territoriale des savoirs en construction, c'est d'amener aussi sur le territoire des personnes qui n'y siègent pas forcément, mais qui peuvent développer leur réflexion et contribuer au débat de manière plus locale.
On s'est aussi retrouvé sur cette volonté de diffuser ces savoirs universitaires avec nos méthodologies différentes, mais finalement pas tant que ça. Hein.
Mmh. Du coup, donc, le 15 juin, c'est la première conférence. Il va y en avoir d'autres ?
Oui, je n'ai pas le calendrier en tête. je sais que j'ai donc un ancien doctorant qui est devenu docteur et qui travaille sur le territoire et qui nous proposera quelque chose autour de la caméra intelligente, une application à l'usinage, je crois que c'est ça le titre. Mais il y en aura oui. D'autres.
Alors pour l'instant, le programme est prévu jusqu'à février 2022 avec des interventions une fois tous les mois. Alors les dates précises ne sont pas encore fixées pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Il y a même d'ailleurs une conférence qui est déjà en cours d'enregistrement pour le mois de mars. Les thèmes seront assez variés, mais il se trouve qu'il y a aussi des travaux qui sont en cours à l'IUT de Figeac qui peuvent intéresser le territoire. Là notamment, donc il y a une enquête qui est en cours auprès des jeunes. Et donc la deuxième conférence de ce cycle qui va se dérouler, si je ne me trompe pas, le 7 juillet, cette deuxième conférence va porter justement sur une présentation, une discussion des premiers résultats de cette enquête qui vont être des résultats tout frais. Mmh. Au mois de septembre, il y aura une conférence aussi qui va permettre de partager les résultats d'un autre projet de recherche que nous sommes en train de boucler en collaboration avec des collègues de Grenoble. C'est dans le cadre d'un projet qui s'appelait BioLorec, qui était un projet portant sur la restauration collective et potentiellement la restauration collective en alimentation bio. Dans le cadre de ce projet, donc, on avait justement un partenariat avec la ville de Figeac et avec l'association Bio 46. Et ce projet visait à interroger les freins ou les facilitateurs de la mise en place d'une alimentation collective, d'une restauration collective qui soit plus locale et éventuellement plus porteuse de bio. Et donc on va, avec notre collègue de Grenoble qui a coordonné ce projet de recherche, on va présenter les résultats de ce projet. Et donc là, on espère bien sûr que les personnes qui ont été impliquées dans cette recherche, les acteurs du territoire figeacois ou les acteurs d'ailleurs des territoires du Vercors qui ont participé au projet de recherche du côté de Grenoble, que ces acteurs-là seront présents pour venir discuter avec nous les résultats de manière à nous dire eux-mêmes ce qu'ils pensent de ce que nous oui. avons tiré de leur parole. Et puis après, donc, il y aura d'autres conférences. Le programme peut être trouvé sur le site de notre association.
L'ATSAC, qui... oui. ATSAC.
Voilà, exactement.
On n'a pas précisé que cette conférence du 15 juin sera en visio et non pas en présentiel, c'est ça ?
Et oui.
Conséquence d'une longue période.
Voilà, on n'a pas voulu prendre de risques d'interdiction ou d'impossibilité. Donc on la propose en visio. Voilà, c'est un peu moins confortable, mais ce sera quand même intéressant.
Alors du coup, il faut se connecter comment et quelles sont les modalités pour assister à cette conférence en visio ?
Alors pour le moment, il faut s'inscrire en ligne sur le site justement de l'ATSAC, lot.org. Dans le courant de la semaine prochaine, beaucoup plus tôt que ça, il va y avoir le lien vers la conférence Zoom qui pourra être suivi par les personnes. Ce sera une conférence enregistrée, Hein, la présentatrice, Madame Borédon, a permis qu'on enregistre la conférence pour que des personnes puissent ensuite la revoir éventuellement sur YouTube. Et c'est vrai que c'est un dispositif un peu exceptionnel et qui va un peu contre notre envie d'aller à la rencontre des personnes, puisque effectivement, si on a nommé cette association Académie Territoriale, c'était bien justement pour être en prise avec le territoire. Mais on a fait ça aussi avant le confinement. Et c'est vrai que ce confinement nous a aussi montré que, après tout, cette virtualisation des rapports sociaux permettait d'avoir aussi des opportunités. Et c'est comme ça que notre collègue de Grenoble, qui est très très prise, elle aussi, dans ses agendas, pourra malgré tout intervenir au mois de septembre.
À distance.
À distance. Hein. Alors, on va mettre en place ce qu'il faut pour qu'il y ait une assemblée dans la salle et qu'on ait un moment de convivialité, c'est-à-dire que l'événement sera mixte. Mais ça permet aussi à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer de venir assez facilement à la rencontre de ces conférences. Et je crois que ça, c'est quand même un atout. Mais bien sûr, on privilégie la présence, on privilégie la convivialité, on privilégie le dialogue en direct, parce que c'est quand même un petit peu ça qui nous nourrit aussi... Dans notre travail.
Merci beaucoup. Donc rendez-vous le 15 juin prochain à 18h30 sur Zoom. Connectez-vous sur le site
atsaclot.org.
Et voilà, à très bientôt.
Merci.
Merci.
Merci.